Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Vous allez bien, ce dimanche matin.
Oui.
Nous allons ouvrir dans la Bible, dans l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 1 et verset 1. C'est l'Ecclésiaste, le Coëlète, en réalité. Je lis dans la version... Stern, là, c'est une bonne version, j'aime beaucoup ça. Alors il dit, parole du Coëlète, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité, vanité, dit le Coëlète, complètement futile, plus rien n'a d'importance. Que récoltes-tu pour tout l'ouvrage pour lequel tu as peiné sous le soleil? Les générations vont, les générations viennent, mais la terre subsiste pour toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il se hâte vers sa demeure, et c'est de là qu'il se lève, etc., 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 etc. Voilà le roi Salomon qui compte parmi les êtres humains qui ont habité sur cette terre et qui ont eu une vie abondante, une vie de grande réussite, une vie de grande réussite apparente. Il avait tout, il avait l'argent, il avait la gloire, le pouvoir, l'adulation, les honneurs, il avait absolument tout. Mais, après quelques décennies d'égocentrisme et de luxe outrancier, voyons un peu comment Salomon résumait sa vie par un mot, vanité. Vanité. Et voilà un homme... qui était désabusé, un homme qui était pessimiste, un homme qui était malheureux. En fait, sa tristesse, elle venait de ce qu'il pensait que le monde était inférieur à ce qu'il devrait être. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Plutôt que de voir les belles choses qui existent et celles qu'on peut faire exister, avec un petit peu de travail, avec un peu de bonne volonté, eh bien, ils voient les mauvais côtés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y en a qui ont vraiment beaucoup de mauvais côtés qui leur arrivent. Il y a des moments où c'est vraiment difficile, c'est vrai. Des moments de tristesse qui s'immiscient dans la vie et qui projettent une ombre sur notre existence. Ça existe et il y a beaucoup de gens, et moi-même, j'ai passé par là, je sais de quoi je parle. On n'est pas triste sans raison. Mais il y en a quand même qui cultivent le pessimisme. Alors c'est vrai qu'il y a des tragédies, des injustices qui nous touchent personnellement, ou alors ce qu'on voit dans le monde, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous pour être, c'est vrai, triste, inquiet même. Alors pour beaucoup, quand ils parcourent leur chemin d'infortune personnelle, solitaire, et que la souffrance entache leur sérénité, quand la tristesse ouvre une brèche dans la tranquillité de leur vie, ils sont tentés de dire, comme Salomon, que la vie, finalement, elle n'a pas de sens, elle est vaine, et ils sont découragés. Et alors, on voit de plus en plus des gens qui avalent des cachetons pour se faire, pour être mieux, pour être plus joyeux. Il y a une tristesse, il y a une morosité ambiante maintenant, c'est vrai. Et je lisais l'autre jour, quelqu'un qui écrivait, quand j'étais jeune, je payais pour les vieux avec la vignette sur ma voiture. Après, on m'a supprimé le lundi de Pentecôte pour payer pour les vieux. Et maintenant que je suis vieux, on me retire de l'argent de ma retraite pour payer pour les jeunes. En fait, on m'a pris pour un con toute ma vie. Il écrivait ça. Et c'était sa façon à lui, moderne, de dire, vanité. Mais il y a une bonne nouvelle, mes frères et sœurs, il y a de l'espérance quand même, il y a de l'espérance. L'espérance, il y a une solution au vide, à la vanité, il y a une solution à la vanité de cette existence. Je ne dis pas de la vie, mais de l'existence. Il y a une solution au désespoir, il y a une solution au découragement les plus profonds que vous pouvez ressentir. Cette espérance, elle réside dans le pouvoir transformateur de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et dans le pouvoir rédempteur de Jésus-Christ, qui guérit les âmes malades, parce que là, il s'agit de l'âme qui est souffrante, de l'âme qui est triste. Un jour, Jésus a déclaré, « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Vous trouvez ça dans Jean, chapitre 10, verset 10. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. La vie. Alors évidemment, certains prédicateurs se sont servis de ce passage pour dire, voyez, Jésus veut que vous ayez du pognon en abondance. La vie, le pognon, c'est vrai que l'argent, ça fait partie de la vie. Quand on n'en a pas, on est bien embêté. Mais c'est pas seulement le pognon que Dieu veut vous donner, c'est une vie abondante. Alors, nous parvenons à cette abondance, non pas en nous concentrant sur nous-mêmes et sur nos besoins. Salomon, il avait tout, mais il était triste quand même. C'est pas en se concentrant sur nos besoins ou sur nos accomplissements personnels que nous allons devenir des gens abondants, des gens heureux. Je connais des gens qui sont abondants et qui sont malheureux. Mais c'est en devenant disciple de Jésus-Christ, c'est en devenant disciple de Jésus-Christ, en suivant ses voies et en s'engageant dans son œuvre. Alors on trouve la vie abondante en s'oubliant soi-même et en nous engageant dans la grande cause de Jésus-Christ. Quelle est cette grande cause de Jésus-Christ? Quelle est la cause du Christ? Eh bien, pour entrer dans cette cause, la première chose, la cause de Jésus-Christ, la première chose, c'est de croire en lui, de lui faire confiance, d'aimer comme il a aimé et d'agir comme il a agi. Ça, c'est le résumé de la chose. La Bible nous apprend que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il a marché au milieu des pauvres, il a marché au milieu des proscrits, au milieu des malades, au milieu des honteux, et il faisait du bien partout où il allait. Il était avec les démunis et il les servait, il était avec les faibles et il les servait, il était avec ceux qui n'avaient pas d'amis et il devenait leur ami, il passait du temps avec eux, et la Bible nous dit qu'il les a tous guéris. Partout où Jésus allait, il enseignait une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour chacun. La bonne nouvelle pour moi, elle n'est peut-être pas pareille que pour vous. Je reçois des requêtes de prière des gens, une dame là qui me dit qu'elle a eu un AVC et qui a maintenant tout le côté gauche paralysé. Que Dieu te bénisse, ma sœur, et que Dieu te rétablisse. Lis le livre que je t'ai envoyé et fortifie ta foi en lisant ça et reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reçois beaucoup d'autres lettres qui me disent, voilà, mon mari est en prison, des choses, des drames, des choses terribles. Mais Jésus est venu dans ta maison, au travers de mes prédications, au travers de la Bible qui est posée sur ta table. Eh bien, il est là, son esprit est là, et partout où il va, il fait du bien. Il faut que tu sois sensible à Jésus. Il fait du bien. Il faut que tu fasses confiance à Jésus. Il veut te faire du bien. Il enseignait la bonne nouvelle. Parce que les gens sont enseignés par toutes sortes de choses tristes, ennuyeuses, catastrophiques. Encore là, je viens de voir, j'ouvre mon ordinateur ce matin, je vois, il y a eu un tremblement de terre en Bretagne maintenant. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, mais quand même, voilà. Et puis, on voit des horreurs, des choses épouvantables. Alors, il a enseigné des vérités éternelles qui ont rendu les gens de son temps libres, tout simplement, autant matériellement que spirituellement. Et ce qu'il a fait autrefois, il veut le faire aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours le même, il ne veut pas, il ne peut pas changer. C'est à nous de nous approcher. Ceux qui s'approchaient de lui, eh bien, il était là, il était disponible, et il changeait leur vie, il leur enseignait. Il leur faisait pas d'un coup de baguette magique une transformation forcément immédiate, pas toujours, mais les enseignements qu'il donne nous aident à prendre le dessus sur nos difficultés. Alors, vous savez, tous ceux qui se consacrent à la cause du Christ découvrent la véracité d'une de ses très grandes promesses. Quelle promesse ? Celle où il dit, Jésus dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. On va lire ça, c'est dans Marc, chapitre 8, verset 35. Je vous lis le texte tel que Jésus l'a dit. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui détruira sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Comment peut-on détruire notre propre vie pour la bonne nouvelle? Eh bien, c'est en détruisant nos ambitions personnelles, nos petits machins personnels, nos envies personnelles. Et alors, pour Jésus, pour le témoignage, pour aider les gens, pour secourir les gens, pour être sur le chemin des gens, afin de pouvoir les aider et aller sur leur chemin pour pouvoir les aider. Vous voyez, c'est ça, renoncer à sa vie. Ça ne veut pas dire se trancher la gorge, ça veut dire renoncer à ses propres ambitions. Le roi Salomon, il avait tout ce qu'il voulait, et avec ses concubines, et quelques copains, et puis son peuple à côté, il crevait de faim, hein, comme beaucoup encore dans cette... Bon, je dirais rien. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera. Mes frères et sœurs, Salomon avait tort. Salomon avait tort. C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que tout est vanité que c'est vrai. Non, il avait tort. La vie n'est pas vanité. C'est pas vrai. Salomon, ferme ta bouche que j'ouvre la mienne. Il avait tort, Salomon. La vie n'est pas vanité. Au contraire, elle peut être pleine de sens. Elle peut être pleine de sens et de paix. Mais c'est à nous de faire ce qu'il faut faire pour qu'elle soit pleine de sens et de paix. Jésus tend ses mains guérisseuse vers quiconque le cherche. Je sais, cela sans aucun doute, que de croire en Dieu, croire Dieu, l'aimer, s'efforcer de le suivre, faisant du bien comme il faisait du bien, ça change nos cœurs, ça apaise véritablement nos souffrances et ça remplit notre cœur de paix. Je sais cela parce que je vis ça. Alors, c'est certain que nous devons avoir plus qu'une simple connaissance intellectuelle des évangiles, pour que Jésus manifeste son influence guérisseuse dans notre vie. Nous devons intégrer l'évangile à notre vie. L'évangile, le message de l'évangile, doit faire partie intégrante de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Si ce que nous sommes et ce que nous faisons, ce n'est pas pour porter l'évangile, ça vaut rien. Pardon. Ça vaut pas rien, parce que ça nous permet de voir, par exemple, vous avez des tas de païens qui font des choses formidables pour aider leurs enfants, etc. C'est très bien, mais nous avons quelque chose de spécial à faire. Nous, en tant que chrétiens, c'est de faire comme Jésus faisait. Et ce dont Jésus s'occupait le plus, c'était des malheureux, des pauvres, des gens qui étaient désespérés. Il allait et il changeait leur vie. C'est simple. Tout comme ces trois mots. Croire, aimer, agir. Croire, aimer, agir. Quand vous croyez en Dieu, quand vous croyez Dieu, ça vous conduit alors à croire, à faire confiance dans ce qu'il dit, à vraiment faire confiance, à vous engager, à croire que ce que les Écritures nous disent est vrai, et ça vous donne confiance pour faire des choses que vous n'auriez pas faites parce que vous avez des besoins personnels qui vous semblent tellement importants. Mais Jésus dit, occupe-toi d'abord de mon royaume et de ma justice, et je te donnerai tout par-dessus. Mais si nous ne faisons pas ça, alors nous aurons ce qu'il nous faut, mais nous n'aurons pas l'abondance. C'est ce que c'est l'abondance. C'est quand la coupe déborde. C'est ce que la Bible dit. Camille disait, ma coupe et ma sous-coupe débordent. La foi fait grandir notre amour pour Dieu, fait grandir notre amour pour les autres, notre estime pour nous-mêmes. Cet amour nous incite à imiter le Sauveur. Et ne croyez pas que ce que je vous dis là, c'est du simplisme. Ça ressemble à du simplisme, mais c'est pas du simplisme. C'est pas simplet ce que je vous dis. J'ai employé un mot plus... Ce n'est pas un aphorisme. L'aphorisme, ça change pas la vie. Un aphorisme, c'est un bref énoncé qui résume une théorie. Eh bien, je suis pas en train de vous faire un bref résumé un bref exposé qui résume une théorie. C'est pas une théorie, c'est la vérité. Il y a des milliers et des millions de personnes qui, depuis 2000 ans, peuvent témoigner que c'est vrai. Ce que je suis en train de vous dire là. Un aphorisme ne guérit personne. C'est l'amour de Dieu qui guérit. C'est l'amour de Dieu qui secourt. C'est l'amour de Dieu qui rétablit. C'est l'amour de Dieu qui ravive. Mais l'amour de Dieu passe par toi, mon frère. Passe par toi, ma sœur. La pauvre petite vieille qui est dans ta rue et qui a beaucoup de peine à marcher avec son filet pour ses courses, l'amour de Dieu est grand pour elle, mais il doit se manifester par toi. S'il ne se manifeste pas par toi, tu peux prier 1000 ans pour que cette grand-mère soit aidée. C'est de la bêtise. Arrête de prier et agis. Et tu verras comme tu seras content. Tu verras comme tu seras content. Dieu vous aime, et quand vous pensez que personne ne vous aime, eh bien, vous vous trompez. Jésus, lui, il vous tend la main, et si vous faites ce qu'il dit, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui vont se mettre à vous aimer parce que vous leur aurez fait du bien. Par les paroles que je vous donne aujourd'hui, il vous tend la main. Il désire vous guérir, il désire vous relever. C'est son plus grand désir. Remplacer le vide qu'il y a dans votre cœur par une paix durable, c'est son plus grand désir. Il désire balayer les ténèbres, quelles qu'elles soient. Il désire les balayer, tout ce qui obscurcit votre vie, il désire le balayer. Il veut remplir votre vie de sa lumière. Il a dit, je suis la lumière, invitez-le, il viendra, il sera votre lumière. Ça, c'est pas la faute, c'est une réalité. C'est-à-dire que les choses vont devenir claires pour vous, vous saurez, vous comprendrez. Et vous pourrez faire en toute connaissance de cause les choses qu'il vous inspirera à faire. Je sais de quoi je parle. Alors croyez, les Écritures nous disent ça. Sans la foi, il est impossible, on va le lire dans la Bible, c'est mieux que sur ma note, Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire par la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Vous devez croire par la foi. La foi, c'est le contraire de la vue, de l'ouïe, du toucher. Vous ne pouvez pas croire en Dieu parce que vous le voyez. Vous ne pouvez pas croire en Dieu parce que vous l'entendez. Vous ne pouvez pas croire en Dieu parce que vous le sentez. Vous devez croire en Dieu par la foi, c'est-à-dire sans aucune preuve. Vous croyez en Dieu. Et comment on peut croire en Dieu sans aucune preuve? Par une simple décision. Oui, je crois en Dieu. Mais si tu commences pas par cette décision, Dieu ne s'approchera jamais de toi. Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui par la foi. Je relis. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, de lui, doit croire par la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, rémunérateur, ça veut dire c'est celui qui paye. Il va vous payer. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. Il va vous rémunérer. Vous aurez une rémunération. Si ce dont vous avez besoin, c'est une guérison, il va vous la donner. Si c'est de l'argent, vous allez l'avoir. Si c'est de la tendresse, vous allez en avoir. Quoi que ce soit, vous allez recevoir de Dieu ce dont vous avez besoin. Il va pas vous donner une pierre si vous avez besoin de pain. Il va pas vous donner un scorpion si vous avez besoin de viande. Il va vous donner exactement ce dont vous avez besoin. Mais la première chose, il faut croire qu'il existe. Et ça c'est un choix. Vous croyez qu'il existe. Vous dites, je crois. Maintenant, j'ai pas de preuve, mais je crois. Et je vais commencer à faire ce qu'il dit. Mettre à l'épreuve de mon intelligence les choses qu'il dit. Je vais les faire et je vais bien voir comment Dieu va agir dans ma vie. Et il va le faire. Vous voyez, la foi en Dieu, c'est pas une tradition désuète. Bien sûr qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont foi en Dieu et qui sont des véritables charognes, des pédophiles et tout ce que vous voulez. Bien sûr, ça existe. Bien sûr, des grenouilles de bénitier médisantes et mauvaises comme des teignes. Bien sûr, ça existe, mais c'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle d'avoir une foi saine comme les gens quand ils rencontraient Jésus et qu'ils voyaient les choses, les miracles et qu'ils entendaient ses bonnes paroles. C'est de cette foi-là dont je vous parle là. Je vous parle pas, il faut pas que vous compariez la foi dont je vous parle avec les gens bizarres qui disent avoir la foi. Il faut être intelligent. Peut-être que vous pensez que vous êtes intelligent, justement, et que vous êtes expérimenté, et que vous n'avez pas besoin de Dieu. Bon, ben, continuez votre vie, et vous allez finir comme Salomon par dire « tout est vanité ». Parce que ça, c'est de l'orgueil. « Oh oui, non, mais moi, je suis intelligent, je n'ai pas besoin de Dieu. » Vous, bien sûr, vous êtes stupide. Ah bon ? Ah bon, je suis stupide ? Ha, ha, ha. Vous voyez, la foi en Dieu, c'est pas une tradition désuète. La croyance en Dieu, c'est pas une chose qu'on regarde, qu'on examine, qu'on admire. Même il y a des gens qui disent, j'admire votre foi, j'aimerais bien avoir votre foi. Ben, prends-la, garde, prends-la la foi, crois. La foi, c'est pas quelque chose simplement qu'on admire chez les autres, ou qu'on regarde, et puis ensuite, on se réunit dans un salon, puis on en discute. C'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. C'est une charrue qu'on mène au champ, et à la sueur de notre front, on creuse un sillon dans le sillon dans lequel on va pouvoir mettre des graines qui vont porter du fruit et qui vont porter du fruit qui demeure et qui vont nous nourrir, des fruits qui vont nous faire du bien et qui vont faire du bien aux autres aussi. La foi, c'est quelque chose d'actif. de fort. Jésus dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. C'est pas Dieu qui va faire le premier pas. Il a déjà fait le premier pas. Il est venu sur cette terre. Il a pris un corps d'homme. Il a parlé. Il a souffert. Il est mort à votre place sur la croix. Et maintenant, il vous demande d'y croire. C'est à vous de faire le pas. Lui, ça y est, il l'a fait. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il s'approchera pas de vous si vous vous approchez pas de lui. Mais vous ne pouvez pas vous approcher de lui si vous n'avez pas la foi. Il faut que vous ayez la foi. Comment? Comment? D'après ce que je vous ai dit, c'est comment qu'on fait pour avoir la foi? On décide. Je décide que je fais confiance à Stéphane. Et bien maintenant, c'est à lui de me montrer si j'ai bien eu raison de lui faire confiance. Vous comprenez? C'est tout, c'est comme ça. Je décide de mettre ma confiance en Dieu, puis maintenant c'est à Dieu qu'appartient le pouvoir de me prouver que j'ai eu raison d'avoir confiance en lui. C'est vous qui devez commencer. Ensuite, aimer. Plus on aime, plus on est heureux. Plus on aime, plus on est heureux. L'amour dont Jésus parle, c'est pas de l'amour qu'on consomme et puis qu'on jette. Un truc comme mon pays est l'amour. Il a eu 150 bonnes femmes, il les a toutes fait cocu et il vient nous chanter l'amour. Mais c'est pas de cet amour-là dont je vous parle. Je vous parle de l'amour infini de Dieu, un amour fidèle. C'est l'amour de Dieu dont je vous parle, qui vous permet de voir plus clairement ce qui vous concerne, ce qui concerne les autres, ce qui concerne les situations dans lesquelles vous vous trouvez, parce que vous ne les regardez plus avec méfiance, mais vous les regardez avec amour. Quand vous aimez comme ça, vous voyez le potentiel qui est en chacun, et une fois que vous avez vu cela en eux, eh ben vous ne pouvez plus les ignorer. Vous ne pouvez plus les mépriser ou pratiquer la discrimination vers qui que ce soit. Vous ne pouvez plus. Ensuite, il faut agir. Parce que aimer, s'il n'y a pas de l'action derrière, qu'est-ce que j'en ai à fiche de votre amour ? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de votre amour ? Vous me dites, bon frère, je t'aime, oui, bon, et alors, ça change quoi dans ma vie? Il faut agir. Ce sont souvent des petites choses qui font les grandes réalisations. Pour devenir bon en quelque chose, il faut s'exercer. Et ensuite, il faut continuer à s'exercer. C'est jamais fini. Dans le sport, la musique, dans les études, dans tout, c'est comme ça. C'est exactement ça, l'organisation de Dieu sur terre. Ça commence par, j'aime quelque chose, je le fais, je m'exerce, je suis pas très bon, mais je continue, je persévère, je viens de mieux en mieux, et puis un jour j'excelle et je deviens maître moi-même pour enseigner les autres. Mais il faut commencer. J'ai lu le témoignage d'un homme qui a dit, j'ai imposé 2000 fois les mains à des malades, il s'est jamais rien passé, et à partir du 2000e, c'était une avalanche de guérison dans mon ministère. Il n'a pas lâché. Il a continué, il a persévéré, il a exercé le don. Dans l'Église de Jésus-Christ, on est aidé à faire. On a besoin du corps de Christ. On a besoin de la différence des uns et des autres. C'est comme un corps. Vous savez, on dit toujours, je fais partie du corps de Christ. Alors on imagine la tête qui a le corps. Oui, c'est une bonne image. Mais maintenant, pensez au corps des pompiers. C'est-à-dire, vous avez dans votre village ou dans votre ville, une caserne, c'est les pompiers. Et quand ils sont tous ensemble, on dit c'est le corps des pompiers. C'est-à-dire que chaque pompier a sa fonction. Celui qui monte à l'échelle, il sait que c'est lui qui monte à l'échelle. Celui qui est aux manettes derrière, il sait que c'est lui qui est aux manettes. Celui qui gicle avec la lance d'eau, il sait ce qu'il a à faire. C'est ça, le corps des pompiers. Eh bien, le corps de Christ, c'est la même chose. Nous avons tous notre fonction, nous savons ce que nous avons à faire, nous nous sommes exercés à faire ce que nous avons à faire et nous le faisons, et ensemble, nous sommes efficaces. Vous voyez? Ensemble, vous ne pouvez pas être efficace tout seul. C'est comme une main, vous savez, il y a un feuilleton hein, qui s'appelle, je ne sais pas comment, où il y a une main qui court toute seule. Comment? La famille Adams, me dit ma fille. Ça, c'est la science-fiction. Mais on dirait qu'en ce moment, le corps de Christ, il est un peu comme ça. Vous avez une main qui traîne dans un village, un pied qui traîne dans un autre village, une oreille à gauche, un genou à droite. Et puis voilà, puis ils sont tous en train de se plaindre. Réunissez-vous!
Réunissez-vous, mangez ensemble, priez ensemble, lisez la Bible ensemble, chantez ensemble. Un genou tout seul. Bonjour genou. Moi si je vois un genou dans la rue, je prends avec des gants, puis je mets dans une poubelle. Par contre, je vois plein de genoux dans les rues, mais en dessous, il y a la cuisse, en dessous, il y a le mollet, après, il y a le torse, après, il y a les épaules. On voit jamais un genou tout seul. Eh ben, le corps de Christ, c'est un peu ça. Il y a des genoux qui se baladent tout seuls. Puis des orteils. Ouh là là, des orteils, il y en a plein. Oh, je suis pas grand-chose, vous savez, j'ai pas reçu grand-chose. Ouais, ben, marche aux orteils, tu vas voir. Ben, le corps de Christ, en ce moment, on dirait qu'il n'a pas d'orteil. Il boite, il est mal foutu. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas leurs responsabilités, parce qu'ils disent, oh, dans les églises, il y a des hypocrites, il y a tout. Ben, commence à y aller, tu verras, il y en aura déjà moins, puisque tu seras là. Non? Ben oui. Dans l'église de Jésus-Christ, on est aidé à faire. Et plus nous faisons, mieux nous faisons. Et mieux nous faisons, plus nous recevons des responsabilités pour faire encore plus et mieux. C'est comme ça. Et cela, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Jésus accueille tout le monde. C'est ce qui fait que nous nous aimons les uns les autres. Parce que quand on agit, on n'a plus le temps de se critiquer. Alors évidemment, dans les églises, la plupart du temps, les gens posent leur derrière dans un endroit, ils écoutent le bon pasteur, puis après ils sortent, ils cancanent, ils font des petits clans, et puis, t'as vu l'autre, comme ci, comme ça, puis l'autre, elle m'a pas dit bonjour, et tout. Puis, ben, voilà, mais ils foutent rien! Il faut faire des choses! Il faut avoir des preuves. L'église était absolument inintéressante s'il n'y a pas de programme, de projet. Il faut avoir des projets. Nous avons des projets. En ce moment, on a 4-5 projets. On va encore en discuter cet après-midi. Si on n'a pas de projet, l'église, c'est le truc du passeur. Puis les autres sont là. Ils suivent. Mais c'est embêtant de suivre tout le temps. C'est mieux de prendre part au projet et de faire, de construire ensemble. Alors réfléchissez au fait d'aller chercher les pauvres, d'aller chercher les nécessiteux, de relever ceux qui tombent, de bénir les malades, de les réconforter, de bénir ceux qui sont des affligés, de les consoler. Il y a du boulot! Il y a du boulot! Tout ça, ce sont des actes que nous pouvons tous faire. Oh, mais je peux pas sortir de chez moi. Et ça, c'est pour ton chien. Le téléphone, tu peux téléphoner. Internet, tu peux écrire un petit mot à quelqu'un. On peut tous faire quelque chose. Vous avez des capacités, vous avez des talents, vous avez une personnalité qui est absolument unique. Dans l'Église, nous nous aidons à devenir meilleurs et à être plus heureux et nous recevons en retour, chacun. Quand on donne, on reçoit. C'est une loi de Dieu. Ne pensez pas que c'est une affaire de culture. Il y a des gens en Afrique qui me disent « Oui, mais ça, c'est une affaire de blanc. Chez nous, c'est pas comme ça. » Eh bien, non! C'est pas une affaire de culture. C'est nous, chrétiens, qui établissons, si nous le voulons, évidemment, une culture de guérison, une culture de bienveillance, une culture de miséricorde envers tous. C'est nous qui imposons cette culture chrétienne. On n'attend pas que ce soit les autres qui nous influencent. C'est le genre de culture du vrai évangile vécu dans la vraie église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a des gens formidables qui sont terriblement imparfaits. C'est vrai. Mais tous vrais disciples de Jésus ont au moins un point commun. Ils veulent s'améliorer. Ils veulent se rapprocher de Dieu. Ça, c'est le point commun de tous les vrais disciples. Alors bon, tous connaissent des moments difficiles, mais l'évangile de Jésus-Christ offre l'espérance. Pas une espérance qui va dégouliner dessus depuis le plafond, mais une espérance dans l'action. Et frères et sœurs, je suis reconnaissant à Dieu d'être membre de son Église et je témoigne que si nous croyons véritablement en Dieu, si nous croyons véritablement ce que Dieu dit, si nous l'aimons, si nous aimons nos frères et sœurs, si nous nous efforçons d'agir, alors Dieu
fera ce qu'il a promis, s'approchera de nous, il va s'occuper de nos affaires. Et nous trouverons la guérison, la paix et un sens formidable à notre vie. Que Dieu vous bénisse et vous réconforte par les quelques mots que je vous ai donnés. Et allez-y, bougez-vous. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de garder et de fortifier mes frères et sœurs qui ont écouté cela ce matin. Je te prie pour eux afin que tu les renouvelles dans leur intelligence pour que un nouveau peuple se lève en France pour pouvoir apporter ton évangile. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir.